Radio Kapi. Oh, Kapi.
La situation dans les groupements de Djomba et de Kisigari est calme mais reste imprévisible ce mercredi. Cependant, il y a eu des combats là toute la journée d'hier. Le bilan fait état de 13 civils tués et au moins 8 villages vidés de ses habitants. Lumumba est de retour au pays. L'avion de Congo Airways transportant les restes a atterri aux petites heures de ce matin. L'agenda prévoit une longue tournée à travers le pays, notamment dans son village natal au Sankuru, à Kisangani de la Tchopo et Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Nous recevons dans cette édition du journal le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabije Kassi. Il salue l'implantation de la toute première raffinerie d'or en RDC construite à Bukavu. Pour lui, cette usine, initiative des opérateurs économiques privés, permettra de lutter sensiblement contre la fraude minière. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, la situation est calme mais très imprévisible ce mercredi dans les groupements de Djomba et celui de Kisigari. C'est dans les territoires de Rutshuru. Ces entités ont été le théâtre des affrontements violents durant toute la journée d'hier entre les FARDC et les rebelles du M23. Les sources coutumières locales donnent un bilan de 13 civils tués. De plus, 8 villages ont été vidés de leurs habitants. Le point avec Bernard Nyangi.
C'est entre 19h et 21h locales que les dernières détonations d'armes lourdes et de bombardements ont été signalées hier mardi dans la zone de Shangi, groupement de Bweza, où il y a encore une position avancée de l'armée nationale congolaise, indiquent certaines sources civiles et administratives dans la zone. Pour ces sources, les attaques des rebelles sur les villages Bikenge, Shangi, Bukima, Ruvumu et leurs environs ont causé d'énormes dégâts humains. Si l'armée a repoussé cette attaque dans quelques-uns de ces villages, après une brève occupation des rebelles, nos sources indiquent que certaines de ces localités seraient encore occupées partiellement par les M23 depuis hier soir. C'est entre autres Ruvumu, Buaro et Rutokara, en groupement de Kisigari, où, selon les sources coutumières locales, au moins 13 civils ont été tués alors que plusieurs autres, qui n'ont pas pu fuir, restaient enfermés par l'ennemi dans leur maison. Ces sources craignent que ces habitants ne soient utilisés comme boucliers humains par les rebelles en cas d'une réplique de l'armée nationale. Rappelons que mardi était le troisième jour consécutif des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 qui occupent pour l'instant une majeure partie des groupements de Djomba, Busanza et Bweza, y compris la frontière de Bunagana. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Toujours là au Nord Kivu, la situation humanitaire se dégrade davantage. Depuis les trois derniers jours, à la suite d'affrontements opposant les FARDC au M23 dans le territoire de Rutshuru, la situation est décriée par les natifs de ces territoires. Pour ces derniers, le territoire enregistre chaque jour de nouveaux mouvements de déplacés, alors que des cas de meurtre des civils se rajoutent maintenant au bilan de cette guerre. Un reportage de Bernard Nyangi, rendu ici par Mathieu Lunga.
Après le groupement Djomba, Busanza et Bweza, qui sont déjà vidés à plus de 90% de leur population, un notable du territoire de Rutshuru déplore que ces affrontements frappent depuis hier mardi le groupement de Kisigari. Dans cette zone précise, la situation des familles déplacées reste inquiétante, aussi bien à Rutshuru qu'en Ouganda. Ce n'est pas tout. Des exécutions sommaires des civils attribuées aux rebelles du M23 font légion pour terroriser la population. Ernest Sengoma.
C'est tous les groupements, Kisigari et Bweza, qui subissent les affres de la guerre. Maintenant, nous avons déjà comptabilisé plus de 13 morts. C'est pour moi l'occasion de venir demander véritablement à la MONUSCO de protéger les populations civiles, parce qu'il y a notamment des exécutions sommaires au motif que la population collaborerait avec les FARDC.
Dans son rapport humanitaire du 14 juin dernier, Ocha comptabilisait déjà 345 000 personnes déplacées consécutivement à 10 épisodes d'affrontements entre janvier et mai 2022 dans le territoire de Rutshuru. Selon le même rapport, Ocha précise que pour cette année, les acteurs humanitaires ciblent environ 172 000 personnes dans ces territoires. Goma, Mathieu Ilunga Chambo Yomana Tiebe, Radio Okapi.
Autre nouvelle en Ituri, des propos de haine et de xénophobie se multiplient depuis le week-end dernier. On dénombre déjà des victimes, des personnes qui ont été soit agressées, soit menacées à cause de leur morphologie ou appartenance tribale. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner cet acte qui alimente les tensions communautaires dans cette province déjà meurtrie par les atrocités des groupes armés. La justice militaire qui s'est déjà saisie de cette affaire exhorte la population à éviter les discours de haine qui sont punis par la loi. Isaac Remoyopi.
Au moins 3 personnes sont déjà victimes de discours de haine et de xénophobie depuis le week-end dernier. Selon des sources concordantes, un habitant a été agressé des pieds d'un montant estimé à 1 250 $ vers Wampara, à la périphérie de Bounia. Un autre a été menacé de mort sur la route de Kassenyi à 55 km de Bounia. Et le troisième cas est signalé au quartier Ndibé au chef-lieu de la province. Les auteurs sont notamment des militaires, les accusant d'être des citoyens rwandais. Les chefs des secteurs de Bahema Sud condamnent cet acte qui prend de l'ampleur dans la province. Katalo Takumara.
Militaire sur ivresse. Il a dit aux messieurs, cette fois-ci nous sommes contre la morphologie rwandaise et les rwandais. Le militaire voulait ôter la vie de notre frère là et il a été sauvé de justesse. Nous devons bannir les antivaleurs de la haine. Tous on est congolais.
L'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri met en garde les auteurs de cette pratique qui, selon lui, est punissable par la loi. Joseph Makelele précise que sa juridiction est déjà saisie de certains dossiers relatifs au discours de haine.
Le ministère public au courant de ces faits, ils seront sanctionnés par rapport aux actes, par rapport aux conséquences, selon le code pénal militaire.
Les acteurs politiques également s'insurgent contre cette pratique qui limite les mouvements de certains habitants qui ont peur d'être assimilés aux Rwandais. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Lutte contre les discours et messages incitatifs à la haine au Sud Kivu. Le maire de la ville d'Uvira a relayé hier le message du ministre national de l'Intérieur, mettant en garde la population locale contre ces phénomènes qui remettent en cause le vivre ensemble entre les communautés. C'était lors d'une réunion du Conseil urbain de sécurité élargie à plus de 300 représentants de mutualités ethniques, des associations membres de la société civile, des confessions religieuses, des services étatiques et cadres locaux. Fiston Goma.
Plusieurs acteurs représentant les mutualités ethniques vivant à Uvira ont condamné avec leur dernière énergie des discours et messages incitant à la haine qui sont distillés sous les formats audio dans les forats WhatsApp. Le porte-parole et secrétaire de l'association Shikama Banyamulenge d'Uvira, Boss Ndataba et Muyoboke. Ce message ont insécurisé nos enfants. Même pour passer les examens de fin d'année, ça ne sera pas possible car ils sont déjà affectés moralement. Il y a des chansons qui sont balancées dans les éditions de musique et qui demandent que tous les Rwandais retournent chez eux. Nous ne savons pas pourquoi à chaque fois que les Rwandais agressent le pays, c'est nous qui sommes visés. Je reviens de Goma pour enterrer mon petit frère tué par le M23 sur le champ de bataille, tous de Banyamulenge. Ils se battent pour la patrie. Nous sommes des civils. S'il y a un Banyamulenge dans le M23, il est là pour son propre compte. Il y a des Banyamulenge qui distillent des messages incitant à la haine. Ils sont éparpillés à l'étranger. Nous leur demandons de cesser. Ce message nous cause des ennuis parce qu'ils sont récupérés dans les groupes WhatsApp par d'autres extrémistes pour nous faire du mal. Le maire de la ville a tiré la sonnette d'alarme sur les dangers de ces messages de haine en cette période de crise. Un comité local sera mis en place pour traquer les présumés auteurs en collaboration avec les services de sécurité et la justice. D'Uvira, Fiston Momayaba, la Radio Okapi.
Pour sa part, l'église catholique de Bukavu invite ses fidèles à la retenue face aux messages de haine propagés ces derniers temps par certaines personnes mal intentionnées. L'abbé Justin Cousy, directeur de la commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu, évoque les bonnes relations de fraternité qui caractérisent depuis des décennies le peuple rwandais et congolais. Nous sommes des frères et condamnés à vivre ensemble, martèle l'abbé Justin dans cet extrait choisi par Jean Kassami.
Nous devons faire la part des choses et comprendre que nous sommes des voisins naturels avec les Rwandais, surtout nous de Bukavu avec les amis de Changuru. Nous sommes les deux églises les plus proches au monde des deux pays voisins. Quand une cloche sonne à Bukavu, elle est entendue à Changuru et vice-versa. Nous partageons le même soleil, la même pluie, et la même rivière et le même lac. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble, c'est comme ça que le destin l'a voulu. Il ne faudrait pas que les agendas politiques, motivés par des ambitions politiques, nous opposent. Et je ne crois pas que les fusils soient toujours la meilleure solution pour régler un problème. Encore moins la machette, les bâtons ou les couteaux. Et en tout cas, ce n'est pas par un agent de l'Église catholique ou même d'autres confessions religieuses que certains voudront manger le piment de leur division dans nos bouches. Ça, ça ne se fera jamais. Simplement, nous regrettons que certains fils de ce pays prennent les armes contre leur propre patrie. Ça, ça n'existe nulle part au monde.
Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale a obtenu de ses pairs de la SADC la condamnation de l'agression rwandaise par l'occupation de la cité de Bunagana dans le Nord Kivu par le M23. Au cours d'un colloque en visioconférence lancé hier mardi, auquel ont pris part tous les présidents des assemblées nationales de l'Afrique australe, Christophe Mbosso a mené un plaidoyer contre l'occupation d'une partie du territoire congolais par le Rwanda sous le label du M23. En réaction, la présidente du Parlement sud-africain a condamné cette agression et a clairement indiqué que le M23 est soutenu par les puissances de la région des Grands Lacs. Michel Kifindangoy.
Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale a demandé à ses pairs de la SADC de mener un plaidoyer auprès de leurs chefs d'État et de gouvernement respectifs en vue d'obtenir la condamnation sans équivoque de l'agression de la RDC par le Rwanda. Christophe Mbosso.
L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale a récemment rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda.
De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale sud-africaine estime qu'il est temps de réactiver la brigade d'intervention créée en 2013. Mosiviu Mapisa.
Nous avons senti une certaine incohérence dans la manière dans laquelle cette situation est gérée. Le Conseil de sécurité connaît que c'est M23. Ils sont parrainés, c'est connu.
Mosiviu Mapisa a aussi dénoncé que parmi les pays membres du Conseil de sécurité, il y en a qui ne veulent pas s'impliquer pour trouver des solutions définitives à ce problème, profitant des ressources minières de l'Est de la RDC.
Lumumba est de retour au pays. C'est ce mercredi aux petites heures du matin que l'avion du Congo Airways transportant les restes de l'ancien Premier ministre a atterri à l'aéroport international d'Ndjili, Daniel Tamizoni.
L'émotion était forte pour les membres de famille de la délégation présente. Enfin, Patrice Emery Lumumba est de retour dans son pays. Le commandant de bord de l'aéronef qui porte le nom de l'ancien Premier ministre a confié à nos confrères de l'AFP sa fierté d'avoir eu la responsabilité de ramener au pays le héros national. Parmi les personnes qui ont accompagné le corps à Kinshasa, on compte bien sûr la famille des membres du gouvernement, notamment le Premier ministre. Le corps prendra ce jour même la direction du Sankuru, sa province d'origine, précisément à Onalua, son village natal, rebaptisé Lumumbaville. Après le Sankuru, le cortège se rendra à Kisangani, puis Lubumbashi pour être conduit à Chilantembo, où Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 avec deux de ses compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito, élevés à ce jour au rang de grands officiers de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. La dépouille sera ensuite ramenée à Kinshasa. Trois jours de deuil national seront organisés, puis l'inhumation aura lieu au mausolée dont les travaux de construction sont pratiquement terminés à la place de l'échangeur à Limété. Le deuil national prendra fin avec la commémoration de l'indépendance du pays. Ce sera le 30 juin, le 62e anniversaire de l'indépendance du Congo.
Effectivement, la dépouille de Patrice Emery Lumumba a déjà quitté Kinshasa pour Tumbe, près de son village natal dans le Sankuru, cet avant-midi, par un vol de la compagnie d'aviation Air Kasai. C'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui est à la tête de la délégation des officiels qui accompagne le corps de l'ancien Premier ministre Lumumba à cette étape. Et puis, Patrice Emery Lumumba va enfin bénéficier des obsèques dignes dans son pays, comme vient de le dire Daniel Tamizoni. Avant son inhumation à Kinshasa, le cercueil de Patrice Emery Lumumba sera acheminé dans sa terre natale à Lumumbaville. La cartographie de cette localité dans ses reportages d'Esterne Dalafina, rendu par Pélé Kipelamondo.
Lumumbaville a été créée depuis 2013 par le décret du Premier ministre honoraire Augustin Matata Mponyo. Elle est située au Sankuru dans le territoire de Katakokombe. Elle est frontalière au nord avec le groupement de Odoku, à l'est par le groupement de Vélé, à l'ouest par la ville de Tchoumbe et au sud par la rivière Lotombo. Concernant la situation administrative, deux communes constituent Lumumba-ville. La première, commune de Ewango, terre qui a vu naître Lumumba, et une autre dans la commune de Wemboniama. Les deux communes ne disposent d'aucune infrastructure digne du rang de la ville et moins encore de la personne immortalisée. Toutefois, quelques 8 lampes publiques sont placées tout autour du monument construit à l'époque du Zaïre, à titre d'hommage à l'illustre disparu. Aucune administration n'est opérationnelle à Lumumba-ville, car les autorités de cette ville n'ont toujours pas été investies. La mairie n'a pas encore ses propres locaux. Le nouveau gouverneur de province, Jules Lodi Emongo, séjourne déjà à Onaloa, lieu où sera érigée la mairie de la ville. Des sources sur place affirment que les habitants se mobilisent pour démarrer les processus de deuil et aussi réserver un accueil chaleureux aux autorités tant nationales que provinciales et autres personnalités.
Actualité internationale.
Le président de transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu deux anciens présidents burkinabés ce mardi 21 juin, avec Roch Christian Kabore, chef d'État qu'il a destitué en janvier dernier, et Jean-Baptiste Ouédraogo, brièvement au pouvoir dans les années 1980. Le dirigeant de la junte a échangé sur des questions sécuritaires, la conduite de la transition et d'autres sujets d'intérêt national, selon un communiqué de son gouvernement.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabije Kasi. Il salue l'implantation de la toute première raffinerie d'or en RDC construite à Bukavu. Pour lui, cette initiative des opérateurs économiques privés permettra de lutter sensiblement contre la fraude minière, surtout dans les secteurs aurifères. Théo Ngwabije Kasi s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana. Suivez.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour, madame.
La ville de Bukavu sera dotée de la toute première raffinerie d'or de tout le pays. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle?
Une grande satisfaction pour la province, mais aussi pour le pays. Saluer aussi les efforts de ces grands opérateurs économiques, Monsieur Karim et son entreprise, d'avoir répondu au fait à un besoin pour cette province, que vous n'ignorez pas que la province d'ici de Kivu est une province qui regorge beaucoup de minerais. Et surtout de l'or.
Est-ce que vous pensez que ce projet permettra enfin de lutter contre la fraude minière qui gangrène le secteur aurifère dans la région?
Je suis convaincu, puisqu'en fait, vous savez, les opérateurs économiques ont toujours évoqué le problème qu'on n'a pas une raffinerie. Aujourd'hui, ça sera un problème résolu. Donc, nous pensons que les opérateurs économiques qui sont patriotes, qui sont corrects, n'ont plus de raisons de continuer à frauder, puisqu'au moins aujourd'hui nous avons cette usine qui répond vraiment aux normes internationales et surtout la haute technologie. Nous venons de faire le tour, c'est une usine qui a été montée avec toutes les caractéristiques possibles, en tout cas dans tout a été respecté, donc il n'y a plus de raison aujourd'hui de faire la fraude. Malheureusement, il y en a d'autres qui vont persévérer dans cette fraude-là et nous allons lutter. Nous allons continuer à lutter contre la fraude, puisqu'il n'y a plus de raison aujourd'hui.
Beaucoup s'interrogent encore par rapport aux normes environnementales. Est-ce que vous pensez que cette usine, construite en plein centre-ville, permettra en tout cas de respecter l'environnement?
Nous avons reçu les explications du directeur adjoint de cette entreprise. Il nous a rassurés. Tout est prévu, effectivement, pour effectivement respecter les normes environnementales. Donc, moi, je suis très convaincu qu'effectivement ces problèmes ne vont pas se poser.
Une très bonne nouvelle aussi pour la province en termes de création d'emplois. Combien est-ce que d'emplois peuvent être attendus, des emplois bien sûr congolais, peuvent être attendus grâce à cette usine?
Déjà que l'entrepreneur nous a assuré que ça a été fait par les Congolais. Donc c'est vrai que le machine et tous les restes viennent de pays étrangers, mais l'usine a été montée grâce à la main-d'œuvre. Et puis la raffinerie, il y aura des emplois. Donc, je ne peux pas quantifier les nombres, mais je sais que ça va booster sur le plan de la création de l'emploi.
Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes vraiment de plus-value que cette usine pourra apporter pour la province que vous dirigez?
Vous savez, je crois que vous couvrez depuis de longues années ces questions des mines. On a beaucoup parlé, mais il nous manquait des infrastructures. Et nous avons une raffinerie aujourd'hui. Nous pensons qu'aujourd'hui, d'abord, nous avons une évasion terrible sur le plan d'exportation de l'or. Vous voyez les chiffres minables que nous présentons aujourd'hui, pendant que le pays voisin aligne des chiffres astronomiques. je ne sais pas les chiffres, mais c'est plus de 50 à 100 fois l'or qui est envoyé à l'étranger. Donc le fait d'avoir cette usine ici dans la province d'ici de Kivu, nous pensons et nous espérons que les rapports vont être renversés. On pourrait avoir maintenant de l'or qui est dans les secteurs formels. Au lieu que nous puissions avoir de l'or qui passe dans des circuits qui sont opaques, on pourrait avoir de l'or maintenant qui est tracé formellement. Et il y aura effectivement, si l'or est tracé formellement, c'est qu'il y a des revenus pour l'État et au niveau de la province et au niveau national, mais aussi ça va être un boom économique pour les opérateurs économiques qui sont dans les secteurs orifères. Donc on va aller dans une vision où on a effectivement une exploitation légale. Voilà.
D'exploitation industrielle aussi.
Oui, l'usine est là. Ça veut dire demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut faire le même travail. Nous espérons demain qu'il y aura des opérateurs économiques qui vont aussi installer maintenant des grandes usines au niveau des centres d'exploitation. C'est important.
On est vraiment dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui veut actuellement vraiment qu'il y ait une transformation locale des minerais.
On n'aurait pas eu cette usine si lui-même le chef de l'État n'a pas beaucoup intervenu. Donc je me rappelle quand M. Karim est venu nous rencontrer, moi et le vice-gouverneur, nous avons posé ce problème au niveau national et le chef de l'État a appuyé. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, à travers ces images, il va voir qu'effectivement, contrairement à ce que les gens racontent, la province est en train d'avancer et le pays avance dans un secteur qui doit rapporter effectivement à la population, tout comme à ceux qui sont dans les secteurs.
Monsieur le gouverneur, je vous remercie.
Je vous en prie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.